9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Il y a une grosse actualité en ce moment dont la presse française ne parle pas, ce sont les ovnis. Seul courrier international ose demander en couverture cette semaine, faut-il avoir un peu peur des ovnis? Claire Carrard, la directrice de courrier international, va nous en dire plus. Je recevrai ensuite l'historien Sébastien Ledoux qui publie La Nation en récit. Il nous racontera comment notre grand récit national s'est transformé au cours des 50 dernières années sous l'influence des films, des livres, mais aussi de nos différents présidents de la République. Et enfin, les vacances commençant, vous allez peut-être vous retrouver nez à nez avec des animaux qui ne vous sont pas faits. Familiers comme les requins ou les moustiques. Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, va nous dire lesquels sont les plus dangereux, ceux qu'il faut fuir absolument. Bonjour Claire Carrard.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de Courrier International et vous avez fait cette semaine votre une sur les extraterrestres. Le titre c'est « Faut-il avoir un peu peur des ovnis ?» Il faut dire qu'il y a une véritable actualité sur le sujet. Il y a de plus en plus de mystérieux objets volants filmés par des pilotes de chasse que l'on peut voir sur Internet. Une task force a été créée aux États-Unis sur le sujet l'année dernière. Un rapport du Pentagone vient d'être publié le 25 juin qui reconnaît que de nombreux phénomènes observés ne peuvent pas être expliqués, 143 en tout. De grands journaux comme le Washington Post ou Der Spiegel n'ont plus peur de s'interroger sur les ovnis. En France, la presse française résiste encore. Dans le monde, par exemple, on ne parle jamais d'ovnis. Est-ce que vous avez hésité, vous, Claire Carrard, avant d'aborder le sujet et de le mettre en une?
Un peu, oui. Et d'ailleurs, on a mis ce « un peu » dans le titre de « une ». Les ovnis, la vie extraterrestre, c'est pas la première fois qu'on fait une une sur le sujet à Courrier International. Il y a 4-5 ans, on avait fait une une très drôle, mais sur des informations très fondées, là, qui concernaient la vie extraterrestre, la recherche de vie extraterrestre à partir de l'annonce de découverte de plusieurs centaines d'exoplanètes. Cette fois, le rapport du Pentagone, entre le rapport du Pentagone, l'émission de 60 Minutes au mois de mai, on a pu voir que dans la presse américaine, il y avait énormément d'articles publiés sur le sujet et on s'est dit, ben, allons-y, c'est à la fois un sujet d'été et en même temps, c'est un sujet qu'à un moment, il faut aborder sans céder à quoi que ce soit de complotisme. Mais il y a des faits, il y a des observations qui ont été faites par des pilotes américains. Donc, on a pris le parti de le traiter sérieusement à partir d'un article du Washington Post que vous avez cité en introduction. Et ensuite, d'éclairer le dossier par des positionnements un peu plus nuancés et surtout un point de vue d'un astronome et d'un écrivain qui nous permettent de relativiser aussi les choses.
C'est vrai que
on a hésité.
Le Washington Post écrit que les couloirs du pouvoir à Washington bruissent de rumeurs au sujet des ovnis. Parmi les sénateurs les plus en vue, les membres du Pentagone et même d'anciens directeurs de la CIA, alors qu'il y a 20 ans, si vous croyiez aux extraterrestres, cela pouvait mettre fin à votre carrière. À part le président Jimmy Carter qui avait raconté en avoir vu, mais bon, c'était Jimmy Carter et personne ne le prenait vraiment au sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, à votre avis? Qu'est-ce qui a révolutionné tout ça?
Ce qui a crédibilisé cette année la piste de phénomènes inexpliqués, mais ça ne veut pas dire que ce sont des objets extraterrestres, je le répète, il faut quand même être prudent.
Oui, mais le Pentagone ne dit pas il y a des vaisseaux extraterrestres. Il dit il y a des vaisseaux, on ne sait
pas.
Ils disent simplement il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer.
Exactement, et pour l'instant on en est là et on en reste là. Il y a en France, il y a aussi un groupe d'observation des phénomènes aériens inexpliqués et qui travaillent dessus. Il y a aussi des phénomènes inexpliqués, mais ça peut être des phénomènes de toute nature. Je pense que là, ce qui s'est accéléré cette fois-ci, c'est pour ça que nous-mêmes, on a fait la une, c'est la création de cette task force l'an dernier, au mois d'août dernier aux États-Unis, qui fait que tout d'un coup, on s'est aperçu que l'armée américaine officialisait le fait qu'elle prenait elle-même au sérieux cette affaire. Il y a des vidéos qui ont fuité l'an dernier, je crois que c'est le New York Times qui avait sorti une première fois une vidéo qui avait été prise en 2004. Du coup, l'armée américaine a ressorti des vidéos. Voilà, et donc je pense que c'est ça qui a fait... Là, je regardais un chiffre qu'on a sorti récemment. Pendant la pandémie, il y a eu 7200 signalements d'OVNI aux États-Unis. Et on peut penser que le fait qu'il y ait une task force qui enquête véritablement sur ces phénomènes et a encouragé des gens à valider cette proposition et à penser qu'il y avait effectivement des phénomènes inexpliqués.
Les vidéos voilà. auxquelles vous faites allusion sont des vidéos de pilotes de l'Air Force et de l'US Navy. Hein. Elles ont fait pas mal surface ces dernières années sur Internet. Elles montrent des appareils inconnus se déplaçant à des vitesses incroyables et réalisant des manœuvres dans le ciel dont nos Absolument. Propres appareils sont incapables. Leur authenticité a été confirmée par le Pentagone. C'est parmi ces vidéos qu'on a vu dans l'émission, la célèbre émission 60 Minutes, par exemple. Mais on voit bien qu'on ne peut plus balayer ça d'un revers condescendant.
Non, absolument, on ne peut pas, parce que c'est vrai que cette émission a montré, et l'armée américaine a reconnu qu'il y avait des phénomènes inexpliqués, on ne peut pas dire, mais par contre, il y a entre ne pas balayer ça d'un revers condescendant et après dire que ce sont des extraterrestres, il y a un pas et qu'on n'invite pas forcément à franchir. Nous, dans le dossier, on est sur l'interrogation et sur, effectivement, il y a des phénomènes inexpliqués qui peuvent être tout un tas de choses.
Ce qu'a confirmé Barack Obama le 17 mai dernier, vous le racontez également dans Courrier International, il était l'invité du Late Late Show de Reggie Watts sur CBS. Il a été interrogé sur les extraterrestres et après avoir plaisanté sur l'existence d'un laboratoire secret où l'armée garderait des spécimens d'aliens, il est devenu plus sérieux et il a dit qu'il y a effectivement des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont on ne sait pas ce qu'ils sont et dont on n'arrive pas à expliquer la façon dont ils se déplace. Je le cite là. Hein. Ses paroles ont été beaucoup commentées, pas en France, mais partout ailleurs. Et dans le magazine américain The Spectator, l'écrivain Lawrence Osborne a écrit « C'était comme si du jour au lendemain, l'ère de complotisme qui plane sur le sujet des ovnis depuis 70 ans s'était évanouie. »
Absolument. C'est ce genre de déclarations qui font qu'on prend aussi, et que nous-mêmes on prend les choses un petit peu plus au sérieux aujourd'hui. Il n'y a pas que de vagues sénateurs ou il n'y a pas que des illuminés qui commencent à parler plus sérieusement des ovnis. Il y a effectivement ce que dit Washington Post des sénateurs. Il y a Marco Rubio, il y a Barack Obama, d'anciens directeurs de la CIA. Et c'est vrai que ces paroles ont fait le tour du monde parce que d'une certaine façon, lui aussi, si Barack Obama dit qu'il y a effectivement des choses étranges qui se passent, du coup, le monde entier est prêt à l'entendre. Voilà.
On fait une pause, Claire Carrard. On se retrouve juste après. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. D'ailleurs, vous en dites énormément dans le numéro de Courrier International.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes toujours avec Claire Carrard, la directrice de la rédaction de Courrier International, dont la couverture cette semaine est consacrée aux extraterrestres. Faut-il avoir un peu peur des ovnis ? On vient de le dire aux États-Unis, il y a un véritable effort de transparence de la part du gouvernement américain sur les ovnis et ça bruisse de rumeurs, comme dit le Washington Post. En tout cas, personne n'a de problème à en parler. On dirait qu'en France, c'est complètement différent. Comment l'expliquez-vous ?
Je crois que c'est un phénomène très américain. En fait, je ne crois pas qu'en France, on cache davantage de choses. Il y a un papier du Foreign Policy qu'on n'a pas passé, qu'on a résumé dans le dossier, mais qui explique très bien, qui dit presque en creux qu'en fait, ce qu'on raconte des ovnis en dit plus de l'Amérique que des ovnis, que des extraterrestres. Et c'est vrai, quand on regarde la chronologie de l'apparition, la première fois qu'on a commencé à parler des extraterrestres, c'est parti des États-Unis, enfin des ovnis, en 1947 avec Kenneth Arnold, le premier pilote à avoir observé 9 soucoupes volantes, enfin 9 objets non identifiés dans le ciel. On était en plein contexte de guerre froide et en fait, à chaque fois quand même qu'on se remet à parler des ovnis, il y a toujours un contexte autour géopolitique qui n'est pas anodin. Donc, sans pencher pour une version ou pour l'autre, je pense que c'est vraiment du côté américain. C'est une histoire très américaine, l'histoire des ovnis. Ça n'empêche pas qu'en France, il y a eu aussi des observations, mais je ne crois pas que ce soit un sujet même dans la population française, par quelques personnes qui sont concernées. C'est un sujet qui est plus dans la culture pop en France et ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, c'est devenu un sujet politique plus.
Il y a également un astronome américain nommé Seth Shostak qui fait partie de ceux qui cherchent une vie extraterrestre, hein, mais qui ne la cherchent pas chez nous, pas sur Terre, plutôt dans des galaxies lointaines, et qui dit que les extraterrestres, s'ils existent, ne peuvent pas arriver sur Terre en chair et en os. Les lois de la physique les en empêcheraient. Donc ce serait une machine, comme les robots que nous envoyons sur Mars.
Absolument. Il dit ça dans un texte que je recommande, qui est délicieux. Et pour ceux qui espèrent attendre des petits hommes verts, sa démonstration est sans appel. Il y a, effectivement, si on tient compte que l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, il faut, je crois, 75 000 ans pour y arriver. Il nous dit que même si les extraterrestres sont beaucoup plus avancés que nous, ils ont eux-mêmes du mal à arriver. Donc, il voit plutôt des intelligences artificielles. Et quelqu'un, on ferait mieux de s'en méfier, dit-il.
Oui, et qu'on attend de les imaginer comme le voisin d'à côté, mais sans sourcils, sans poils et sans blanc des yeux. Il y a peu de chances, dit-il, qu'ils nous soient si proches. Ce qu'il dit aussi, cet astronome, c'est que s'ils parviennent à nous envoyer des vaisseaux sur Terre, c'est que leur supériorité technologique est très grande et mieux vaut qu'ils soient animés de bonnes intentions, car en cas de conflit, on n'aurait aucune chance.
Hein. Oui, il finit avec une très jolie image, si je puis dire. Si un vaisseau se pose dans les jardins de la Maison Blanche, on aura toutes les raisons de penser que ça peut être un petit peu tendu.
Alors, il y a un autre écrivain anglais, celui-là, Sean Thomas, qui parle du biais de normalité qui nous fait rejeter les informations sortant trop de l'ordinaire et présumer que rien de trop étrange ou de trop affreux peut arriver. C'est ce qui nous a empêchés, dit-il, de prendre le Covid-19 au sérieux au début, avant la mi-mars 2020. Il dit qu'il ne faudrait peut-être pas répéter la même erreur avec les vidéos d'OVNI.
Oui, c'est très drôle parce qu'il raconte de sa propre expérience. Lui-même était en Thaïlande au début de la crise et puis il a entendu parler d'une grippe, d'une épidémie de grippe en Chine. Et puis il est rentré au Royaume-Uni, il a tenté de dire à son entourage, attention, on dirait que quelque chose de grave se prépare. Lui-même est tombé malade et puis il était désespéré, personne n'y croyait. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, la pandémie. Et là, lui-même, du coup, retourne la situation, parce que lui-même est incrédule face à l'histoire des ovnis. Et quand il voit Barack Obama, le rapport du Pentagone et tous ces sénateurs qui se mettent à dire, mais si, regardez, il y a des ovnis, que voit-il que je ne vois pas? Effectivement, quelque chose de grave, il faut qu'on se prépare. Mais il a du mal, hein, quand même.
Oui, mais enfin, on voit bien que l'époque a complètement changé autrefois. Oui. Tout ce qu'on est en train de se dire tout ce que vous racontez dans le courrier international, tout ce que vous avez traduit en réalité de la grande presse internationale, c'était inimaginable il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un autre regard.
Oui, on a peut-être moins de biais cognitifs de normalité, je ne sais pas. On essaye on s'est dit quand même, étudions, voyons, essayons de poser les choses calmement sans céder à quoi que ce soit. Voilà, mais je trouve que c'est. Oui, on regarde ça avec plus d'attention, en effet.
Merci Claire Carrard d'avoir été mon invitée sur Europe 1. Je rappelle donc ce numéro de Courrier International qui est toujours en kiosque avec pour titre « Faut-il avoir un peu peur des ovnis ?» À suivre, juste après une pause, l'historien Sébastien Ledoux. Il a enquêté sur les mutations de notre roman national. Toute une autre histoire là. Bonjour Sébastien Ledoux.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes historien, chercheur à la Sorbonne, enseignant à Sciences Po. Et vous venez de sortir chez Belin « La nation en récit », un livre tout à fait passionnant sur ce que l'on appelle le roman national ou le récit national, c'est-à-dire la façon dont on transmet, en fait, dont on raconte le passé de notre pays à l'école, mais aussi dans les films ou dans les livres, dans les médias et dans les discours de nos présidents de la République. On se plaint qu'on n'apprend plus l'histoire de France, mais on se trompe, d'après ce que vous racontez, il y a toujours un récit national qui est transmis. Simplement, depuis 50 ans, il s'est métamorphosé. C'est l'histoire de cette métamorphose que vous faites dans votre livre.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « La nation en récit ». C'est pour vraiment faire comprendre dès le départ qu'on a des changements, des mutations importantes dans cette façon de raconter l'histoire nationale, l'histoire de notre pays depuis 50 ans en gros, depuis une cinquantaine d'années. Évidemment, il y a eu des transformations avant. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que les années 70 marquent quand même un tournant dans cette façon de raconter l'histoire de France.
Alors, le récit national, c'est ce qui lie les Français entre eux. C'est ce qui assure une cohésion entre ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi avec ceux qui nous ont précédés, avec les morts, en fait. À l'égard de qui nous avons une dette morale. C'est ça, le récit national, ou le roman, peu importe le nom qu'on lui donne.
Oui, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai été un peu au-delà aussi, dans l'introduction du livre, au-delà de la question du récit, c'est-à-dire de la façon dont on raconte les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fait social autour de ce récit national qui a été mis en place au XIXe siècle, au moment de la construction des États-nations dit moderne, et pas simplement en France, en fait, hein, dans beaucoup, beaucoup de pays. Et on se rend compte qu'effectivement, vous avez une volonté de la part de l'État, relayée justement par l'école notamment, hein, de la part de l'État, finalement, de contracter une dette des vivants envers les morts. Et on va faire le choix des morts. Et c'est ça l'essentiel du récit national. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va choisir comme morts avec lesquels on va contracter des dettes.
Alors après la Seconde Guerre mondiale, c'était simple. La France avait vaincu les nazis grâce à la résistance et la France était un empire colonial grâce aux militaires et aux explorateurs. La dette, elle était toute trouvée.
La dette était portée essentiellement sur ce qu'on appelle les héros, c'est-à-dire ceux qui étaient présentés comme ceux qui avaient défendu finalement la nation française à travers des victoires, donc les victoires militaires. Ou, vous citez les explorateurs effectivement, ou ceux qui avaient accompli finalement, parce que c'est ça qu'il faut comprendre jusqu'aux années 70, qui avaient accompli ce qu'on appelle l'œuvre civilisatrice. Le récit national était beaucoup là-dessus pendant toute la Troisième République et la Quatrième République, à savoir que la France, on l'a présentée comme un pays exceptionnel avec un destin exceptionnel, celui d'accomplir le progrès humain sur la Terre, dans une dimension universelle.
Alors avec les années 70, le mythe de la France exceptionnelle se fendille, la collaboration réapparaît, au cinéma d'abord, avec des films comme Le Chagrin et la Pitié, La Combe Lucien, Monsieur Klein sur la rafle du Veldiv, où l'on ne voit jamais d'Allemands, seulement des policiers français, et en librairie avec La France de Vichy, célèbre livre de Robert Paxton. Et avec la collaboration, c'est le spectre de la déportation des Juifs qui réapparaît, et puisque le récit national est basé sur l'endettement morale, celui-ci, dites-vous, va passer des résistants aux déportés, des héros, disiez-vous, aux victimes.
Oui, c'est un tournant là aussi, évidemment, dans la façon dont on perçoit l'histoire de nationale, l'histoire de France. Mais plus globalement, finalement, le passé, ça se passe en gros hein, dans les années 1980. D'abord dans la société, hein, les médias vont jouer un rôle important, les historiens aussi, autour de finalement de cette dette envers les victimes civiles, c'est ça qu'on va mettre en avant. Et dans cette question d'endettement des victimes civiles, on va voir une sorte de cristallisation autour du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on va appeler Shoah, avec le film de Lanzmann en 85, qui va accueillir 5 millions de téléspectateurs quand il sera présenté pour la première fois sur TF1 en 1987. Et là, effectivement, on a vraiment un tournant qui, là aussi, est observable dans différents pays, pas simplement en France. C'est l'attention de plus en plus forte, en fait, qu'on va accorder aux victimes de la société d'aujourd'hui. Et aussi de la société du passé, de la société donc d'avant, avec l'idée, parce que c'est pas simplement la reconnaissance des victimes, l'idée qu'il faut réparer. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, ça va effectivement changer profondément la façon dont on voit le passé, c'est-à-dire qu'il faut réparer finalement les crimes du passé.
Dans les années 80, on est donc sous François Mitterrand. Vous l'avez dit, il y a la sortie de Shoah, le film de Claude Lanzmann, mais il y a aussi le procès Barbie. Mmh. Il y a le premier discours de Jacques Chirac, alors Premier ministre, de la cohabitation sur la rafle du Veldiv en 86. C'est aussi la loi qui interdit de nier l'existence des chambres à gaz. Au fond, c'est là que naît ce qu'on appelle le devoir de mémoire.
Le devoir de mémoire va s'imposer, et notamment comme formule, hein, j'ai fait une étude là-dessus qui a donné lieu à un livre, hein, à la fin des années 80, au début des années 1990, c'est un terme qui apparaît dans les années 70, mais pas du tout justement omniprésent, et là il devient omniprésent, et en fait on va effectivement, enfin le politique va reprendre le discours là aussi des médias qui ont adoré ce terme, hein, de devoir de mémoire, les médias ont beaucoup aimé, donc ils l'ont repris, et le politique va, quand je dis le politique, c'est Jacques Chirac, vous l'avez cité, pas du tout Mitterrand, on a une rupture aussi là très importante, hein. Mais le politique va reprendre ce terme-là pour formaliser justement ce que j'appelle cette nouvelle dette envers les victimes.
Et au fond, le moteur du récit national devient à ce moment-là le dévoilement d'une vérité oubliée, occultée ou refoulée, dites-vous. Donc comme la rafle du Veldiv que l'on commémore à partir de 1993. Et c'est la première fois, dites-vous, que l'on commémore un événement dont le pays n'est pas fier.
Oui, c'est aussi ça la profondeur de la transformation, si vous voulez. C'est vraiment cette nouvelle intrigue narrative qui consiste à relever ce que l'État a commis comme crime par le passé, au lieu justement de ses victoires. Hein. Donc là, on voit toute la transformation. C'est une rupture vraiment considérable. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Au lieu de commémorer des victoires et les héros, on va effectivement se tourner vers ce dévoilement de la vérité à l'appui des fois de travaux historiques, hein, il faut le préciser bien sûr, hein, mais avec des commémorations à l'appui. Ce n'est pas simplement une simple déclaration comme celle de Jacques Chirac en 1986, puis surtout 1995 en tant que président de la République. C'est la mise en place de commémorations.
Alors, ce qui se passe en 1995, quand il est président de la République, c'est que Jacques Chirac fait son fameux discours du Veldiv. Il ouvre au fond les portes à la reconnaissance des crimes commis par la France au cours de son histoire, ce que n'avait jamais voulu faire François Mitterrand, Georges Pompidou ou le général de Gaulle. Hein. Donc, il ouvre la porte à des crimes comme l'esclavage ou la colonisation aussi. Hein. Et ensuite, à des réparations dues aux victimes. Comment ça arrive, ça ?
Ça arrive par un changement de perception en fait de la société. C'est-à-dire que vous avez cité Pompidou, qui restait aussi connu, en tout cas pour nous, les historiens qui travaillent sur la mémoire, par rapport à une conférence de presse qu'il tient liée à l'amnistie de Paul Touvier, qui était milicien, et donc finalement c'est une grâce présidentielle. Et lui va argumenter en disant mais finalement on ne peut pas vivre autour de haine du passé, il faut une réconciliation. Et donc l'idée principale qui est présente là chez les politiques, mais depuis très longtemps, hein, c'est que en fait la réconciliation au sein d'une nation se fait par l'amnistie et l'oubli. Et ça devient insupportable et ça devient scandaleux dans les années 80-90. Et au contraire, on pense la réconciliation au travers de la mémorialisation, c'est-à-dire la mise en récit des victimes, la reconnaissance et la réparation des victimes. Donc on a complètement changé en fait de logiciel.
On fait une pause, Sébastien Ledoux. On continue juste après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Sébastien Ledoux, vous êtes donc historien, vous publiez La Nation en récit chez Belin. On a compris que le moteur du récit national a changé au cours des 50 dernières années. Il est devenu le dévoilement d'une vérité oubliée, d'une vérité occultée. On est passé de la célébration des héros à celle des victimes. Et on a voulu réparer, et on a voulu même réparer à l'égard des descendants des victimes. Hein.
Oui, parce qu'en fait, l'idée qui va s'imposer au cours des années 80-90, c'est que les victimes ne sont pas simplement des victimes directes en fait, des crimes, des violences, des violences de masse. Évidemment, là, j'évoque le génocide des Juifs, évidemment, mais pas que. Donc, la question de l'esclavage va se poser aussi de plus en plus en ces termes-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez c'est la catégorie de traumatisme, hein, c'est l'idée du trauma transgénérationnel, c'est-à-dire de penser que les crimes, finalement, ne font pas simplement des victimes directes, mais que leurs descendants sont aussi, finalement, victimes des crimes de leurs parents, grands-parents, ancêtres.
Ou des crimes perpétrés contre leurs grands-parents,
exactement.
Ou descendants ou ancêtres. Et à partir de là, au fond, ça va toucher tout le monde. Enfin, en tout cas, énormément de gens. Les esclaves, bien sûr, enfin, les anciens esclaves et leurs descendants, les colonisés. Pour la guerre de 14, tout à coup, ce sont les poilus qui sont vus comme les grands sacrifiés de la Première Guerre mondiale. Sur la guerre d'Algérie, il va y avoir à la fois les Français qui ont été soldats en Algérie, les harkis, mais aussi les colonisés, les indépendantistes. Ça va toucher bien sûr les femmes, les homosexuels. Tout ça implique des situations extrêmement conflictuelles.
Oui, parce qu'en fait, on a une sorte de désir d'équivalence à travers cette reconnaissance des statuts de victimes. Hein, et donc, chaque groupe mémoriel, on appelle ça des groupes mémoriels, hein, en tout cas leurs représentants, des associations, vont monter au créneau pour justement revendiquer une reconnaissance de leur statut de victime, à savoir, il y a un préjudice, en gros c'est simple, hein, ils considèrent qu'il y a un préjudice qui a été fait à partir du moment où il y a eu des crimes ou des violences et des morts. Un certain nombre de morts par des violences. Oui, exactement, par la France. Et donc, de ce préjudice-là doit découler une réparation. Donc, c'est vraiment cet état-là, alors, qui a été favorisé aussi, il faut le dire, par l'imprescriptibilité des crimes. Hein, donc, ça aussi, c'est le procès Barbier en 87, on revient là-dessus. Hein, c'est-à-dire de considérer que pour certains crimes, finalement, il n'y a pas de prescription possible. Et donc là, effectivement, on ouvre la porte aussi à cette dimension-là de réparation, même si les faits ont été commis bien plus tard, hein, des dizaines d'années plus tard.
Et le traumatisme est censé frapper les descendants d'autant plus fort qu'il y a eu déni. C'est très important, le déni.
Exactement. C'est pour ça qu'en fait, la question de l'oubli a été complètement métamorphosée. On parle de la transformation du récit national de la mémoire, mais en fait, c'est aussi surtout la vision de l'oubli. C'est-à-dire l'oubli est devenu insupportable, finalement. Et donc, l'idée majeure, c'est qu'en fait, on est victime à la fois du crime, mais de son oubli aussi. et qu'il faut réparer les deux. Et c'est pour ça que finalement la mémoire est mobilisée, parce que l'une des réparations essentielles, c'est justement de faire mémoire de ces crimes, puisqu'on considère que l'oubli est traumatisant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec Nicolas Sarkozy, il y a un petit changement à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on se rend compte là qu'on est dans une impasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde.
Alors, effectivement, l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007 va modifier les choses. Lui, il va mettre en avant le thème de la repentance pour dénoncer justement ces politiques d'excuses, de reconnaissance des crimes. Surtout reconnaissance des crimes d'ailleurs, puisque finalement la question de l'excuse c'est pas vraiment posée pour les chefs de l'État, contrairement à ce qu'on dit souvent. Mais en tout cas, lui il va mettre en avant ça, cette dénonciation de la repentance comme finalement un geste contre la nation, contre l'intérêt de la nation. Le problème aussi, c'est qu'il va mettre en avant un récit très lisse de l'histoire de France et revenir à cette question de la glorieuse nation française.
Bon. Le roman national, au fond.
Exactement, ce qu'on appelle le roman national.
Et alors, sous François Hollande, il y a les attentats. La nation se retrouve en guerre. Il y a une héroïsation qui va par la même occasion, à l'égard des dessinateurs de Charlie Hebdo, par exemple, ou du colonel Beltrame. Qu'est-ce qui se passe là? Ça change encore une fois, là.
Oui, parce que l'État, en fait, et l'État, c'est très concret, c'est François Hollande dans sa déclaration du 7 janvier au soir, après les attentats de Charlie Hebdo, va mettre en avant la nation, tout de suite. Alors que ce n'est pas forcément évident, quand on connaît en plus l'état d'esprit, je dirais, des journalistes de Charlie Hebdo par rapport à la nation. Ce n'est pas du tout évident de situer cet événement comme ça, mais il va être situé comme ça, c'est-à-dire, c'est un événement contre la nation. Évidemment, ceux qui ont fait ça sont des ennemis de la nation. Et donc, ceux qui ont été tués sont des victimes, mais qu'on va héroïser. Donc, c'est vraiment on revient à ce discours « mort pour la France », qu'on a connu, évidemment, après la Première Guerre mondiale, avec les poilus. Donc, on revient à ce discours-là. Vous citez Beltrame, c'est tout à fait ça. Mais avec une ambivalence que j'aimerais aussi souligner, c'est-à-dire le discours sur Beltrame, c'était « victime de son héroïsme ». Alors évidemment, ça pose quand même question. Comment on peut être victime de son héroïsme?
Au fond, on réconcilie les victimes et les héros.
On fait un peu les deux. Effectivement, c'est une sorte de synthèse depuis 2015 à travers les attentats. On va à la fois considérer que les personnes qui ont été tuées lors des attentats, malheureusement très nombreux, sont à la fois victimes et héros.
Alors, et depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, quelque chose a encore changé? Est-ce qu'on a encore fait muter le récit national, d'après vous?
Alors, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de faire un « en même temps », comme on dit, cher à ce président de la République, c'est-à-dire à la fois, d'héroïser. Donc là, effectivement, vous avez vraiment une fabrique des héros nationaux qui est prise en charge par lui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un hommage à Napoléon. C'est complètement dans cette perspective, en fait, de revenir aussi à l'hommage aux héros nationaux traditionnels tels qu'on les avait connus lors de la Troisième République et pendant une grande partie du XXe siècle. Donc, on a cet aspect-là. Et puis, à côté, dans ce « en même temps », vous avez une volonté de régler, en fait, des mémoires dites douloureuses. Et je pense évidemment à la guerre d'Algérie et très récemment avec le Rwanda, où il considère qu'il faut faire des gestes, il faut avancer dans ce traitement de ces passés douloureux-là, il faut avancer pour, comme il dit, travailler la mémoire, ou faire œuvrer pour un travail de mémoire, pour justement reconnaître un certain nombre de fautes qui ont été commises par l'État français. Donc c'est à l'aide aussi d'historiens qu'il faut citer, Benjamin Stora avec son rapport, et puis Vincent Duclerc avec son rapport remis en début d'année.
Et c'est Emmanuel Macron qui avait comparé la colonisation à un crime contre l'humanité. Il était le premier président à faire ça.
Oui, alors il est revenu ensuite, juste après, sur ses propos, parce qu'il s'est bien rendu compte que ça avait justement...
Ça allait un peu trop loin.
Ça allait trop loin, oui, puis ça avait déclenché une polémique considérable, et qu'il était en pleine campagne électorale.
Oui, bah c'était justement une déclaration de campagne électorale. Mmh. Mais comme quoi, voilà, tout ça, ça infuse dans la mémoire collective, constamment. On nous apprend l'histoire.
On nous apprend l'histoire et le président de la République en France est considéré comme une sorte de locuteur de la nation. C'est celui qui va effectivement dire l'histoire officiellement.
Merci Sébastien Ledoux. Votre livre s'intitule « La nation en récit ». Il vient de paraître chez Belin. On se retrouve dans un instant avec le président du Muséum d'Histoire Naturelle. Il va nous dire quels sont les animaux les plus dangereux, ceux dont il faut absolument se méfier cet été. Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Vous êtes président du Muséum d'Histoire Naturelle, dont le siège est au Jardin des Plantes. Alors, c'est la dernière émission de la saison, les vacances commencent, et je voulais que l'on dresse ensemble la liste des animaux les plus dangereux, parce que c'est pendant les vacances, en général, que l'on se retrouve au contact d'animaux dont on n'est pas familier, et l'on ne sait pas toujours desquels on doit se méfier. Les requins, par exemple, ont une très mauvaise réputation. Ce sont les animaux qui font le plus peur, alors qu'ils ne tuent qu'une douzaine de personnes par an en moyenne. Hein.
Oui, même pas en fait, hein. C'est même plutôt moins d'une dizaine. Donc on a nos fantasmes qui viennent de l'enfance, on a peur des requins, c'est peut-être les dents de la mer, hein. On a peur des loups, bien sûr, on a tous peur du loup, mais le loup à l'échelle de la planète tue une dizaine de personnes à l'échelle de la planète par an, alors que les chevaux en tuent une vingtaine, et que nos amis les chiens en tuent 25 000. Donc c'est sans commune mesure, 25 000 pour les chiens. C'est absolument énorme. Alors, ceci dit, il y a beaucoup de chiens sur Terre. Hein.
Oui,
si on ramène ça à l'individu.
Ce n'est pas nos chiens à nous, ce n'est pas les chiens que l'on croise à la campagne.
Il y a quand même des morts en France dues aux chiens. Pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors qu'il n'y a pas de mort due aux loups, enfin, jusqu'à présent.
Les chiens en Asie ou en Afrique, c'est la rage.
Oui, c'est la rage, mais c'est aussi les morsures, simplement, hein, ils peuvent tuer des enfants. Enfin, il y a des chiens errants qui sont relativement dangereux, qui ont un comportement de canidé, simplement, et ils peuvent tuer des personnes fragiles, et notamment des enfants ou des vieillards.
Alors, il y a un animal dont on ne se méfie pas, et qui est pourtant beaucoup plus dangereux que le requin, c'est l'hippopotame.
Eh oui, les hippopotames tuent à peu près 500 personnes par an. Dans le monde, enfin en Afrique, puisqu'ils vivent en Afrique, simplement parce qu'ils vivent bien sûr dans les cours d'eau et que les habitants ont besoin de l'eau aussi, donc se vont en fait sur le territoire de l'hippopotame. L'hippopotame est dangereux parce qu'il est massif, parce que c'est un très gros animal, donc il est aussi dangereux par sa masse, et puis il a quand même des dents assez énormes, une gueule absolument énorme, ce qui fait que c'est un animal relativement dangereux. Au même titre que les éléphants d'ailleurs, c'est à peu près le même nombre de morts imputables aux éléphants. Les lions sont paradoxalement moins dangereux, ça, on estime qu'il y a à peu près 250 morts par an dus au lion.
Oui, et mais le lion là, c'est parce qu'il veut vous manger là, c'est différent.
Oui, le lion il cherche un beefsteak.
C'est un accident, il vous tue par accident en fait.
Oui, c'est un animal qui est assez craintif, qui a une assez mauvaise vue, tout comme le rhinocéros d'ailleurs. Et donc, ce sont des animaux qui ont tendance à foncer, à se défendre un peu, à charger en fait, à se défendre par leur masse. Et vu la masse d'un hippopotame, évidemment, en face, un homme est bien léger.
Oui, un hippopotame, c'est entre 2 et 3 tonnes. Hein, donc,
Oui, c'est ça, c'est vraiment, ce sont des animaux énormes. Hein. Mais il y a des animaux qui sont beaucoup, beaucoup plus dangereux. Donc, je parlais des chiens parce qu'il y a beaucoup de chiens.
On va voir les beaucoup plus dangereux, mais il y a un cas que je voulais aborder avec vous, parce que c'est l'ours. Parce qu'à un moment, on a entendu beaucoup, oui, on apprend aux enfants que l'ours, c'est gentil, ils ont tous un petit ours en peluche, mais l'ours, c'est très dangereux, c'est très méchant. Il tue moins d'une dizaine de personnes par an aussi, l'ours. Je me demande si on leur a pas collé une trop mauvaise réputation.
Oui, on a mis une très mauvaise réputation à l'ours. Alors certes, un ours, ça peut être gros. Un grizzly, l'ours brun, sous-espèce grizzly, c'est vraiment très massif. Ils vivent en Amérique du Nord. C'est un ours qui est dangereux si on va sur son territoire, si on se trouve confronté directement à lui. Maintenant, il faut quand même aller sur le territoire de l'ours. Je vais vous livrer une anecdote personnelle. À un moment donné, j'avais fait un déplacement en Colombie-Britannique, là où il fait si chaud en ce moment, et je voulais absolument voir un ours. J'ai mis une semaine avant de voir un ours. De loin en plus, hein, qui grimpait sur un pierrier et qui a fini par s'échapper. Je voulais absolument voir un ours, et j'ai un mal de chien, si j'ose dire, à voir ce pauvre ours. Donc il faut vraiment aller sur leur territoire. Ils sont quand même globalement craintifs, et quand ils nous sentent ou ils nous entendent, et ils se sauvent d'assez loin en fait.
C'est à peu près la même chose que les requins d'ailleurs. Hein. Les requins, c'est parce qu'on va sur leur territoire tout à coup qu'ils peuvent nous attaquer.
Totalement. Le requin, on va chez lui en quelque sorte, donc forcément, il est tenté. Le requin est un poisson, il n'est pas reconnu pour son intelligence et son discernement. Donc on va vite, un surfeur va vite l'abuser, un planchiste aussi, ce qui fait qu'il va confondre et il va goûter. Il n'y a pas de requin qui se dise entre guillemets, tiens, je vais manger de l'homme, c'est bon à manger. Ça relève vraiment de l'accident en fait. D'une mauvaise coïncidence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a si peu. Il y a si peu de morts, une dizaine de morts au grand maximum dues aux requins par an dans le monde.
Alors qu'on s'imagine, quand on pense aux requins, avoir affaire à des serial killers, quoi.
Oui, c'est ça, quoi. Mais notre imaginaire est absolument extraordinaire, parce que, comme vous le dites, on a peur du loup, on a peur du requin, et puis finalement, on a peur de petits animaux, dans certains cas, des araignées, par exemple. Mais les araignées, c'est pareil, ça tue une dizaine de personnes par an dans le monde. Les scorpions, par exemple, sont beaucoup plus dangereux. Alors, on a aussi peur des scorpions, mais les scorpions, ça tue à peu près 3000 personnes. Donc, les scorpions sont relativement plus dangereux, notamment, ils sont dangereux pour les enfants. Parce qu'ils arrivent à piquer assez facilement les enfants qui vont soulever des pierres ou soulever des branches et il y aura les scorpions dessous.
Alors passons maintenant aux tueurs de masse. Ils sont moins spectaculaires mais infiniment plus meurtriers. Les serpents par exemple.
Alors les serpents, on estime qu'il y a entre 50 000 et 100 000 morts par an dus aux serpents. Donc c'est quand même, ça commence à faire beaucoup.
Oui, c'est beaucoup plus que les lions, les hippopotames, les requins.
Ah bah c'est 100 fois plus, hein. Donc, c'est sans commune mesure. On change vraiment d'ordre de grandeur. Hein. Parce que les serpents, c'est discret, ça rampe par terre. Il y en a beaucoup dans les arbres aussi. On sait très facilement mordre, notamment dans les pays tropicaux, par des serpents arboricoles, qui sont extrêmement... Les venins sont extraordinairement toxiques. Si on pense aux serpents corail, alors pour eux qui sont par terre, c'est un venin qui est d'une toxicité extrême, quoi. Je veux dire, on a pratiquement que quelques minutes ou dizaines de minutes pour réagir. Et sinon, on meurt. Donc... Les venins des serpents sont tellement efficaces que c'est un réel danger. C'est pour ça que ça tue autant de monde sur Terre, finalement.
Là où il faut s'en méfier le plus, en Asie et en Afrique subsaharienne ?
Dans les pays tropicaux en général. Hein. Ça va être aussi bien en Amérique du Sud, en Guyane par exemple, dans toute l'Asie du Sud-Est, et puis dans l'Afrique tropicale humide au sud du Sahara, oui.
Et les mouches ?
Alors les mouches, la célèbre mouche tsetse qui passe la maladie du sommeil, qui est un vecteur de maladie, cette maladie tue à peu près 10 000 personnes par an dans le monde. Elle est due à un trypanosome qui est un micro-organisme parasite qui va nous donner la maladie du sommeil et qui fait qu'on va en mourir. Donc c'est pas la mouche elle-même qui va nous tuer, c'est simplement le pathogène qu'elle va transmettre, le parasite qu'elle va transmettre. On peut étendre aux moustiques, parce qu'on dit souvent le moustique est l'animal le plus dangereux au monde, puisqu'on peut estimer qu'il y a pas loin d'un million de décès par an qui sont imputables aux moustiques. Il y en a à peu près 400 à 500 000 qui correspondent à la transmission de la malaria. Mais là encore, c'est la transmission d'une maladie. Le moustique nous transmet la malaria avec le plasmodium, qui est le vecteur de la malaria, qui est un micro-organisme vecteur de cette maladie, enfin qui pose cette maladie, mais le moustique n'est qu'un vecteur. Le moustique ne nous suce pas du sang au point de nous tuer. Il nous transmet simplement un parasite pathogène extrêmement dangereux.
Il nous transmet le paludisme, il peut nous transmettre la fièvre dingue, jaune, la dengue, le chikungunya, tout ça c'est le moustique. Le moustique c'est vraiment l'ennemi numéro un. Hein.
Voilà, donc c'est lié notamment, il y a plusieurs espèces de moustiques, bien sûr on a tous entendu parler maintenant en France du moustique tigre, il y a plusieurs espèces de moustiques, mais il y a deux espèces qui à elles deux, sont responsables d'à peu près 600 000 décès dans le monde. Donc deux espèces de moustiques, 600 000 morts, par transmission de maladies, hein, de parasites. Hein. Mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Effectivement, c'est un véritable problème.
Vous parliez de la mouche tsetse, c'est endémique, la maladie du sommeil, dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, c'est ça ?
Oui, exactement. Oui. Donc c'est une maladie qui fait qu'on a tendance à s'endormir et à somnoler, d'où ce nom de maladie du sommeil. Puis ce nom de mouche aussi, mouche tsetse, enfin moi quand j'étais enfant, ça me faisait un peu rêver. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette mouche, un peu bizarre, avec ce nom surprenant. Et effectivement, c'est une maladie, mais c'est une maladie mortelle. Il ne faut pas plaisanter avec cette maladie. Même si elle se soigne en partie, c'est pour ça qu'il n'y a que, entre guillemets, 10 000 morts par an de la maladie du sommeil.
Vous parliez des araignées. C'est vrai qu'on en a peur et on ne sait pas toujours pourquoi. Il y en a quand même de très, très dangereuses. Mais enfin, on les rencontre rarement.
Oui, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des animaux quand même qui sont de relativement petite taille. Tout ça, ce sont des animaux qui sont petits. Donc, on peut normalement s'en préserver assez facilement. Sont pas des gros animaux. Donc, normalement, on s'en préserve. Alors, chez nous, il y a des araignées qui ont des réputations absolument épouvantables, comme la tarentule, par exemple, qu'on accusait de nous faire danser, d'avoir des mouvements incontrôlables, parce qu'elle a un venin qui peut provoquer éventuellement ça. Et il y a eu toute une série de choses. Et il fallait, pour s'en préserver, les croyances disaient que pour s'en préserver, il fallait danser de manière effrénée quand on était... mordu ou piqué par une tarentule, et il fallait danser de manière effrénée. C'était une façon aussi de danser, parce que comme l'Église réprouvait les danses, on fait là, c'était une danse thérapeutique, donc c'était autorisé.
Il y a un animal dont on n'a pas encore parlé, mais qui est assez dangereux lui aussi, c'est l'homme.
Et voilà, je voulais terminer, enfin en tout cas évoquer l'humain. On estime qu'il y a à peu près 450 000 à 500 000 homicides par an, donc qui sont liés à Homo sapiens. Donc ça aurait tendance à me faire dire de manière presque philosophique qu'on n'a pas besoin des autres, on se débrouille très bien tout seul. On est capable de tuer 470 000 environ de nos semblables chaque année par homicide. Donc on sait faire.
Ce à quoi on peut ajouter, là, cette année un peu spéciale, c'est qu'on se transmet aussi des virus. Et c'est là où les gens devraient, vont certainement, là maintenant ils en ont pris l'habitude, se méfier cette année.
Oui, bien sûr, on se transmet des virus. Le virus du sida, c'est quand même à peu près 1 million de morts par an. Là, le coronavirus, on est à 4 millions de morts en un an à peu près, une grosse année, un an et demi. Et puis il y a d'autres maladies qu'on a tendance à oublier parce qu'elles frappent très peu les pays occidentaux et puis parce qu'on sait s'en préserver. Mais la bactérie qui cause la tuberculose, le bacille de Koch, tue 1,5 million de personnes par an, tous les ans, dans des pays qui n'ont pas accès aux antibiotiques. Merci. Donc il y a encore des pathogènes qui sont redoutables.
Merci Bruno David. Vous êtes donc le président du Muséum d'Histoire Naturelle et le Jardin des Plantes qui en fait partie et l'un des deux plus anciens zoos d'Europe. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. C'était la dernière émission de la saison. On se retrouvera à la rentrée. En attendant, c'est le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Mickaël, quel est votre invité ?
Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. Faut-il relancer les réformes au risque de relancer les conflits sociaux ? Faut-il parler à la gauche ou continuer à fracturer la droite quand le « en même temps » devient un casse-tête ?
Bonne émission, Mickaël.